Bonsoir.
Salut.
Léo, il s'est défoncé le genou.
Non, c'était mon pied.
Ça va, Manuel ?
Ça va bien, merci. Et vous ?
Ça va.
Ça a l'air, tellement sincère à chaque fois qu'il nous demande comment on va.
De fou.
Ça fait plaisir. T'es un bon ami, Manuel.
Je sais.
Je suis content de t'avoir.
Les gars, j'ai un petit peu lu.
Oh, un petit peu, c'est-à-dire ?
Bah, c'est-à-dire que j'ai pas fini le livre, mais je l'ai assez bien entamé pour vouloir du coup faire un sujet.
Ok.
On est dans la merde.
Voilà. Comment atteindre l'excellence ? Alors, il y en a pas un en fait, il y en a deux qui vont me dire qu'ils sont déjà excellents. Donc,
oh,
je vais être le seul à faire le podcast.
Oh, c'était ma vanne.
Il t'a désamorcé ta vanne.
De fou, ouais. Mais j'étais sûr.
Enfin, en même temps, c'était pas une vanne d'ailleurs.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est évidemment tout ce qu'on va raconter là, c'est extrait du coup du livre de Robert Greene, ça se prononce ainsi ? Greene, peut-être avec l'accent Manuel ?
Greene,
ok. Qui est « Comment atteindre l'excellence », donc le livre qui s'appelle juste « L'excellence ».
Voilà. Voilà, qui fait partie d'une série de livres.
C'est aussi le titre de mon autobiographie.
Non, c'était une série de livres.
Qui fait partie d'une série de livres.
Qui a commencé par « Power ».
Voilà, que tu as lu.
Oui, qui était très bien.
Je te torture depuis un certain nombre d'années. Maintenant, tu es sur…
L'excellence.
Voilà.
Et après, c'est « La nature humaine », de mémoire, c'est ça ? Ça va être le plus compliqué pour moi, je crois.
Voilà, tout va ensemble.
C'est... J'en ai lu aucun des trois.
Bah, c'est parfait. Bon, déjà, je me suis noté, histoire de faire le mec qui se la raconte, un peu comme Léo, définition de l'excellence.
Je me la raconte.
Pour remettre les bases.
Il faut dire des choses comme ça.
Alors, le manuel,
quand tu te la racontes, tu donnes la définition du dictionnaire, c'est compliqué.
Ah, c'est ça, se la raconter ?
Oui.
C'est lire la...
Bah, c'est démarrer le podcast par... déjà, attendez, on va reprendre le... Pour démarrer sérieusement...
Je voudrais pas trop me la raconter, mais alors non féminin...
Définition de l'excellence, degré imminent de qualité, de valeur de quelqu'un, de quelque chose dans son genre.
Ouais. C'est dictionnaire monégasque ?
Non ?
Ah.
Oui, très bien.
D'accord.
Voilà. Bon, il y en a. Bah, tu pouvais te la raconter un peu moins, s'il te plaît.
Mmh.
Bon, avant.
Il y en a pour beaucoup, ça reste très imminent et ça n'arrive jamais.
Je peux commencer juste par vous citer, avant de démarrer le podcast, une phrase dans le livre qui m'a beaucoup plu.
Ouais. Et si on dit non, t'es dans la merde ?
Bah, je suis dans la merde, mais j'ai quand même la lire.
Voilà.
Il y a 2600 ans, le poète grec Pindare, je peux le prononcer comme ça, écrivait « Puisses-tu devenir qui tu es en l'apprenant ?» Ce qui signifie « Chacun possède à la naissance un tempérament et des tendances qui l'appellent à un certain destin. » Est-ce que vous pensez que c'est notre destin que de se dire bah, « Je suis né excellent » ou « Je suis né meilleur que les autres » ou « On le provoque » Comment ça...
Alors moi, j'ai absolument aucune croyance au destin.
Bon, rien en fait, Léo, toi tu crois en rien, toi.
Je crois en moi.
Bah ouais.
Et ben voilà, alors après, on se fout de ma gueule.
Ce qui est déjà complètement inné.
Je crois en moi et c'est pour ça que je deviens excellent. Faudrait rajouter cette citation peut-être dans le livre.
Croyez en Léo Duff et soyez excellent.
Non, mais juste si tu crois en toi et en tes capacités, bah, c'est comme ça que tu vas devenir excellent. Si tu crois au destin, c'est le destin qui va devenir excellent à ta place.
Manuel, je sais que t'es. Je pense pas que tu sois d'accord avec ça. Je sais que tu crois beaucoup au destin. Quand t'as des choses qui se font, etc., pour toi, t'as une grosse question dans la vie de timing et de destin et de choses qui doivent se faire maintenant, quoi.
Oui, alors, on va revenir à ce que disait cet ami grec. Je pense qu'effectivement, il y a en chacun une somme de qualités qui convient de découvrir, de dépoussiérer, d'explorer, de révéler au monde. Et avant de le révéler au monde, il faut se le révéler à soi-même. Le problème, comme dirait Léo, le problème avec cette théorie...
C'est vraiment deux mots. Hein.
C'est que il y en a beaucoup qui confondent ce qu'ils aimeraient faire avec leurs prédispositions dans lesquelles ils sont bons, en fait.
Ouais.
Et ça c'est un vrai souci. Et moi ce que j'aime bien dans cette phrase, c'est de dire le voyage il commence d'abord par te découvrir toi-même.
Mais elle est super puissante. Puisses-tu devenir qui tu es en l'apprenant? Bah c'est oui. Incroyable. Ouais. C'est...
Ah non,
c'est vrai, moi elle m'a marqué quand je l'ai lu, je me suis dit... Oh.
Moi je pense que c'est le parfait résumé de ce que devrait être la vie. Ce que devrait être la vie, c'est de découvrir qui on est. C'est pas tellement de découvrir le monde, de voyager, etc., etc. Tout ça, ce ne sont que des outils pour mieux découvrir qui tu es. Te confronter à une autre culture, te confronter à des difficultés, à des imprévus, à du stress, à des challenges, etc. Tout ça, ce sont comme on dit en chimie, des catalyseurs, des éléments présents qui provoquent la réaction, qui révèlent un peu mieux de qui tu es.
Donc l'excellence naît en commençant par sortir de sa zone de confort.
Bah ça c'est une certitude, parce que si tu sors pas de la zone dans laquelle t'es déjà, ça veut dire que tu considères que t'es déjà excellent, donc tu cherches pas l'excellence, donc tu deviendras jamais excellent.
Mais avant de viser à être excellent, la question c'est déjà découvre quelle est ta qualité. C'est ce que dit cette phrase-là. J'ai du mal à le reconnaître parce que je pense que je suis assez critique. D'abord avec moi-même, mais aussi avec l'environnement qui m'entoure. Il y a des gens chez lesquels je ne vois aucune forme de qualité et dont je me passerai de leur existence volontiers, mais biologique, hein, je veux dire, ils ne sont pas nécessaires à cette terre. Mais pour autant, je dois reconnaître que quelque part, il doit y avoir une... Tu vois, dans la distribution de ce qu'on t'a donné à la conception, il y a sûrement quelques qualités quelque part.
C'est juste que tu l'as pas découvert, quoi.
C'est juste que tu sais pas encore exactement lesquelles elles sont.
Ou parfois même pire, t'as pas envie de l'exploiter. Tu cherches pas à l'exploiter, quoi.
Pour clarifier mon point de vue que je donnais tout à l'heure, je crois que je suis devenu excellent dans mon domaine. Ça, c'est une croyance que j'ai. On n'est pas obligé d'être tous d'accord. Du moment que moi je le suis, je pense que c'est le principal. Il s'agit de ma vie en fait, donc oui c'est quand même le principal. Maintenant, j'ai dû apprendre avant de faire ce que je fais aujourd'hui qu'il y avait d'autres domaines qui me plaisaient beaucoup, que j'aurais aimé faire mais dans lesquels j'allais jamais exceller. J'ai compris que j'allais jamais être un grand rappeur.
On veut des exemples.
Un grand rappeur, j'ai compris que j'allais jamais l'être. J'ai compris que j'allais jamais être un grand footballeur, pourtant ça aurait été plutôt cool.
Je le savais.
Et j'ai compris que j'allais jamais devenir, je sais pas, un acteur de cinéma, etc. Enfin, il y a plein de trucs.
Pas encore, mais
j'en avais deux sur trois.
Il y a plein de trucs que j'aurais pu... Ou alors dans le gaming.
Ah oui.
J'avais potentiellement une carrière dans le gaming et j'ai essayé. Et j'ai compris que j'étais pas excellent là-dedans, donc c'était pas... C'était
ta carrière
pas
était
ma compétence.
Derrière toi.
Ma carrière était...
Dès le début.
Ah oui, tout de suite. Ouais. Le lendemain, elle pense là, on arrête.
J'admire ta façon de penser, le fait que tu
Merci.
Sois autant confiant dans ce que tu dis et tout, mais
Merci,
ce qui me fait chier, c'est que t'es au quart de ta vie, Léo. Tu peux pas et te dire, dans 10 ans ou 15 ans,
peut-être
je serai
pas.
Peut-être un super acteur, dans 10 ou 15 ans, peut-être que tu pourras être chanteur et super bien rapper parce que, en fait, le parcours avec tes vidéos t'aura appris à améliorer ta plume, etc. En fait,
non.
Tu sais pas ce qui va se passer.
Non, je sais pas ce qui va se passer. Peut-être que je vais développer une envie, mais en fait, j'ai juste envie d'être encore meilleur que je le suis aujourd'hui dans mon domaine. Et ce domaine, il va peut-être être amené à évoluer. De là à tourner dans un film hollywoodien, je crois pas trop en cette destinée, mais et puis j'en ai pas tellement envie.
Moi, je crois pas non plus.
Bah, quand tu vois... Un gars, une fille avec Jean Dujardin.
Il était acteur, il est resté dans son domaine.
Ouais, d'accord, mais entre passer de un gars, une fille à Le Loup de Wall Street,
oui,
à Hollywood.
C'est un autre sujet.
Il n'est pas devenu footballeur, il est resté dans son domaine.
Mais là, tu fais de la vidéo, tu fais de l'écriture, fais de la vidéo.
Ça n'a rien à voir.
Demain, imaginez les gars, demain YouTube
c'est
explose.
C'est pas pareil que le football, par exemple.
Non, mais YouTube demain remplace vraiment la télé. Okay.
Et pourtant, je connais pas grand chose au foot. Hein.
Non mais enfin YouTube te propose demain de participer à un film mais YouTube Premium tu feras du coup tu seras acteur.
Il n'y a pas une once d'acting dans ce que je fais aujourd'hui. Tu prends deux extrêmes,
mais ça
n'a rien à voir.
C'est tellement un mensonge, la façon dont tu rythmes tes vidéos,
mais
le mystère que
c'est pas de l'acting.
Mais c'est pas de l'acting, c'est pas ça.
C'est l'écriture. Lui il est grave. Hein.
Tu sais que DiCaprio a pas écrit Titanic hein.
Ouais, je sais. Merci. Mais
il a pas mis la musique non plus, il a pas participé au montage.
Et toujours tu t'endors, mais je te spoil, à la fin ça coule.
tu trouves, Manuel, tu trouves pas ça hardcore le fait que à notre âge là tu te dises direct je suis, donc c'est ce que dit Léo, je suis excellent dans ce domaine, du coup toute ma vie j'ai décidé je vais faire que ce truc là et je sortirai jamais de ça.
Non, mais c'est que vous êtes très différents, c'est à dire qu'il y en a un qui a compris que c'était la persévérance qui menait à l'excellence et l'autre qui pense qu'on peut passer d'un truc à l'autre. Moi je ne crois pas à cette théorie. Je crois que tu as un set de qualités et que c'est en exploitant ce set de qualités que tu deviens meilleur et que à un moment ou à un autre dans ta vie, si tu travailles sérieusement avec de la méthodologie, avec les bonnes approches, etc., que tu vas potentiellement frôler l'excellence. Mais je ne pense pas que tu puisses, du jour au lendemain, décider d'avoir une nouvelle carrière. C'est pas possible. Parce que pour avoir les qualités nécessaires pour être dans le très bon ou l'excellent, ça prend une vie. Et toi, ce que tu n'aimes pas, Romain, c'est choisir. Tu détestes ça. Parce que ça implique de renoncer. Et donc toi, tu penses encore qu'on peut être youtubeur, chanteur, rappeur, acteur, vendeur de chouchou sur la plage, driver de yacht, pilote d'hélicoptère.
C'est pas impossible hein, de faire plusieurs trucs, c'est pas ce qu'on dit.
Mais tu seras jamais excellent dans tous ces trucs.
Voilà.
Ah oui, ok, oui, oui, oui. Voilà. Ok, ok.
Comme c'est ton thème de ton sujet.
Non, mais ok. Mais pour moi, c'était pas un truc complètement différent.
Michael Jordan, il a essayé, hein. C'est du sport, hein. Ouais. Le baseball et le basket, c'est du sport.
Bah, et même le golf.
Il a que essayé.
Bon, maintenant qu'on a une magnifique intro de 10 minutes, est-ce que vous voulez que je vous cite quelques passages en rapport avec, évidemment,
la quête ? Non, c'est plus nécessaire. Merci d'avoir écouté ce podcast.
Premièrement, le processus conduisant à cette forme suprême de pouvoir se décompose en trois niveaux. Le premier, c'est l'apprentissage. Le deuxième, c'est le créatif. Et le troisième, la maîtrise.
Ouais.
Qu'est-ce que vous en pensez de ces trois steps ? D'abord, t'apprends, ensuite tu crées, tu fais n'importe quoi, etc. Et en fait, ça va dans la créativité, le fait de faire du test and learn de façon répétée.
Être créatif, c'est pas faire n'importe quoi. Hein.
Non, mais créatif, ça veut dire que t'as appris dans... Enfin, je vous partage juste ce que je comprends, mais le but, c'est justement d'échanger, d'avoir vos retours. Mais premièrement, t'apprends un truc que tu connais pas du tout. Deuxièmement, tu l'exploites. Et ça, c'est la partie créative. Et après, tu la maîtrises. Parce que t'as testé, quoi.
C'est trois étapes vieilles comme le monde. T'es d'abord apprenti, c'est-à-dire tu fermes ta gueule, tu dis rien, t'observes, t'apprends, tu découvres les gestes. Ensuite, tu es compagnon, c'est-à-dire que tu apprends aux côtés de quelqu'un qui sait. Et tu apprends à maîtriser les gestes et tu as le droit, potentiellement, de poser des questions et de toucher aux outils. Et ensuite, t'atteins la maîtrise, c'est-à-dire qu'à force, tu finis par maîtriser le geste, maîtriser l'outil et savoir à quel ouvrage il faut t'attaquer. Mais c'est pas nouveau sur cette planète, ces trois étapes.
Mais c'est marrant, j'avais jamais lu ça, moi. Pour moi, l'apprentissage, tu te construis, t'apprends les bases. La créativité, tu déconstruis tout ce que t'as appris. Et je pense que la maîtrise, c'est le parfait mélange des deux.
Manuel, tu peux me raconter l'histoire sur le maître sushi ?
Ah, Giro.
Oui.
Giro, c'est un maître sushi. Il y a un reportage qui existe. Je ne sais pas s'il est sur les plateformes. Je crois qu'il est sur Netflix pour ceux qui ont envie de voir. C'est un vieux monsieur, mais un vrai, vrai vieux monsieur. C'est comme dans un manga. C'est vraiment le vieux japonais, très tradi, habillé, uni, assez austère. Il rigole quand il se brûle. Enfin, tu vois, c'est deux fois par an, quoi. Et donc, il a ses deux fils qui travaillent avec lui. Et pour faire des bons sushis, il faut maîtriser toutes les étapes. Et je vous encourage à regarder ce documentaire parce que c'est exactement l'illustration de ce qu'on est en train de dire. Il a un de ses fils qui va apprendre à cuire le riz pendant presque 2 ans.
Let's go.
Et le deuxième, il fait que le riz. Voilà. La cuisson, parfaite. Et tant que tu ne sais pas faire cuire le riz, ce n'est pas la peine de parler d'autre chose.
2 ans, c'est long, hein.
Ça dure, ouais.
Ah ouais.
Et l'autre, pendant ce temps, parce qu'il est un peu plus vieux, son autre fils, apprend à faire les omelettes. Tu sais, sur les sushis omelettes, là, tu sais, où il y a un petit morceau d'omelette coincé dans une algue.
Ouais.
Ben lui, il apprend à faire l'omelette parfaite. 2 ans aussi. Et à la fin, le père, il dit, bon, lui, il pourra faire quelque chose. Lui, il est nul.
Ah ouais.
Oui.
Il est peut-être nul juste dans l'omelette.
Non, il passera pas le...
Ah ouais, ok.
Il passera pas à l'étape
d'après. Il a juste fait un stage de 2 ans, en fait.
Et donc... Moi, je suis très, très fan de cette approche des choses. C'est-à-dire, on démarre par les fondamentaux. Si déjà, tu n'arrives pas à maîtriser les fondamentaux, ce n'est pas la peine de parler du reste.
Je me souviens, pas longtemps après qu'on se soit rencontrés, quand je fais quelques emails, etc., dans les équipes de Manuel avec certains collaborateurs à l'époque, je te dis, je crois que ça faisait quelques semaines, et je te dis, bon, en gros, ça, c'est bon, j'ai compris, maintenant, comment je peux faire ça, etc. Tu m'avais dit, non, je crois que tu n'as pas compris. Il faudrait vraiment presque que tu en rêves la nuit et que tu te réveilles en pouvant taper des emails en fermant les yeux pour que t'aies compris et pour que tu saches faire. Et ça m'avait marqué et je me souviens, il n'y a pas longtemps, je lis juste un mail, mais vraiment, je le regarde à peine et je sais pas pourquoi j'étais sur autre chose, mais mes doigts ont presque tapé l'email très rapidement parce que je savais exactement ce qu'il fallait faire, dans quelles conditions. Et ça m'avait rappelé de me dire, putain, tu te souviens, mec, il y a 6 ans, quand t'as fait ton premier truc, tu pensais que c'était terminé au bout de 2 semaines et en fait, ça fait 5 ans que tu te bouffes les mêmes formes d'email, mais juste pour... être certain de ce qui fonctionne quoi, aujourd'hui.
Mais parce qu'on n'enseigne plus la patience, c'est parce que apprendre, ça prend du temps. On est des machines apprenantes, mais on est des... Ça, on peut apprendre assez vite, mais de là à maîtriser, ça prend du temps, en fait. Il faut se tromper, il faut hésiter, il faut... enfin vraiment apprécier le temps qui passe et voir différents cas de figure, etc., etc. Imagine, tu fais apprendre l'anatomie à un mec par cœur, qui a un cerveau bien foutu. Au bout de un mois, il connaît l'anatomie humaine par cœur. Est-ce que tu as envie d'être opéré par lui ?
Ah oui, non, ben non.
C'est long, ça prend du temps. Et il n'y a pas que la connaissance qui est en jeu. Il y a aussi l'expérience. Et tu préfères qu'ils s'entraînent à découper des mecs à la morgue que des mecs vivants au bloc parce que le geste juste n'a jamais aussi bien porté son nom que dans ce cas-là. Mais c'est valable pour tous les métiers en réalité.
Bien sûr. Puis, ce qui est magique dans l'apprentissage, c'est de confronter la théorie et la pratique. Quand tu arrives dans la pratique, tu te dis « Oh là là, bon, je comprends pourquoi j'ai appris ça ». Mais ça, ça ne marchera jamais si je le fais exactement comme ça, en fait. Pas dans mon domaine, pas dans exactement ce que je fais, etc.
Mais c'est ce qui est intéressant dans la technique de Casey Neistat, où il expliquait que ce qui était important, c'est de faire des contenus le plus possible, le plus souvent possible, à fréquence, tous les jours, toutes les semaines, etc. Ce qui est intéressant là-dedans, ce n'est pas tellement de sortir des contenus, c'est le fait d'en faire tous les jours, de bouffer tous les jours d'une compétence, d'un domaine. C'est ça qui va te mener vers l'excellence.
Justement, pour maîtriser un domaine, il faut aimer le sujet et se sentir avec lui des affinités profondes. Votre passion doit transcender le domaine objectif et friser le religieux. Celle-ci, je l'adore. Celle-ci, si je dois la raconter pour que mes proches comprennent à quel point je suis envoûté par ce que je fais, c'est vraiment votre passion doit transcender le domaine objectif, le domaine dans lequel vous bossez, quoi. Votre objectif est friser. Enfin, pour moi, c'est vraiment friser le religieux. C'est que tu l'expliques même pas. T'as plus de vraiment de raison de le faire, mais tu le fais parce que c'est comme ça, ça fait partie de toi, quoi.
De là
c'est...
à avoir une gourmette avec une photo de Manuel.
Ah bon, d'accord.
Mais oui, mais c'est ça. Quand on parle de passion, c'est souvent malheureusement un peu galvaudé, mais la réalité, c'est que vas-y, Léo. Voilà.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
La passion, c'est ce qui te permet de supporter la douleur, l'échec, voire le ridicule, et de continuer, et de persévérer. C'est ça ce que te permet la passion. C'est que toute personne sensée arrêterait.
Donc tu penses toujours, je l'ai noté, et c'est toujours le premier conseil qu'on donne, et les gens nous rayonnaient quand on dit « aimez ce que vous faites ». Mais en fait, moi, à chaque fois que je donne ce conseil, c'est que si
ça
tu...
Ça suffira pas.
Ouais, mais ça va t'aider à souffrir plus et donc à apprendre plus et à travailler plus. Si tu aimes pas ce que tu fais, t'accepteras pas certaines difficultés.
Mais aucune personne normalement constituée accepte de faire, je sais pas moi, 8 km de nage à 6 heures du matin s'il est pas passionné par la natation. Ou,
ce que ça peut t'apporter.
Ou je prends souvent l'exemple des sportifs de haut niveau, c'est comme... les mecs qui font 1000 shoots par entraînement et qui partiront pas de la salle tant qu'ils n'ont pas fini leurs 1000 shoots, en fait. Si t'es pas passionné par ce que tu fais, aucune personne normalement constituée fait ça.
Mais c'est pas le fait de faire ces shoots qui te passionne en lui-même.
Non.
C'est-à-dire que la plupart du temps, tu fais quand même des trucs qui t'emmerdent.
Évidemment.
C'est le process qui est intéressant. C'est te dépasser. C'est te dire, c'est par cette discipline que je vais passer de bon ou très bon ou avec des prédispositions à excellent. C'est comme ça des gens modifient leur destin. Y a cet exemple qu'on a rabâché à Steph Curry, qui est un joueur de NBA que j'adore, à qui on a répété pendant toutes ces années au lycée, à l'université, qu'il était trop petit pour faire du basket, qu'il n'avait pas le gabarit du basket, qu'il n'était pas assez musclé, trop petit, machin, etc. Qui est aujourd'hui un des...
Ils avaient raison.
Bah alors, ça dépend...
C'est juste qu'il a un peu réinventé son basket, mais ils avaient raison sur pas mal de points.
Alors, sur son physique, il a démontré qu'il avait fait ce qu'il fallait pour s'épaissir, un peu. Mais bon, effectivement, il ne va pas devenir LeBron James. C'est pas le même gabarit de joueur. Il joue pas le même poste, ça tombe bien. Et deux, c'est juste que c'est des gens qui comparaient ça à des stéréotypes du jeu. Et donc, si tu veux que des 5 ou que des pivots sur le parquet, bah oui, il faut que des grands joueurs. Mais regarde, Steph Curry, qui est pas petit, il doit faire un peu plus d'1m90.
Oh la honte.
Ce qui est pas un grand gabarit pour le basket, mais qui est... Mais qui reste une taille supérieure à la moyenne pour le reste de l'humanité, il a su, par son travail, sa discipline, son choix de jeu, etc., etc., dépasser tout ça. Et ça, il n'y a que sa passion pour le jeu qui peut l'amener à faire ça.
Mais ce que je veux dire, c'est que, de là à te dire que c'est impossible, ça me paraît extrême, mais j'aime bien l'idée qu'on lui ait dit que s'il voulait faire quelque chose, fallait vraiment qu'il se batte 10 fois plus que les autres, parce qu'il y a des prédispositions que t'as pas.
Troisième point, pour atteindre l'excellence, le monde du travail est comme un écosystème. Les êtres vivants y occupent des lieux de vie à l'intérieur desquels ils sont en concurrence pour les ressources et leur survie. Plus ils sont nombreux dans un espace donné, plus il leur est difficile de prospérer. Plus on passe tant de temps dans un domaine déjà très occupé, et moins on peut espérer une véritable maîtrise. On est attiré par le fait de toucher un salaire ou de faire juste plaisir à sa famille. Il faut changer de stratégie et identifier un écosystème que l'on peut dominer. Cela demande de la patience et une stratégie éprouvée. Tâchez de zoomer sur un domaine plus restreint et continuez ce processus jusqu'à tomber sur un sujet vierge le plus petit possible. C'est ce créneau qui correspond à ce que l'on a d'unique.
Je suis pas trop d'accord.
Pour moi, c'est... peu importe ce que tu vas entreprendre, même si t'es le meilleur boulanger, si tu te mets dans une rue où il y en a 10 autres, ça sera forcément plus difficile. Donc si tu veux atteindre l'excellence...
Alors, cette théorie est fausse. Hein. C'est pour ça que les stations essence sont toujours face à face. C'est-à-dire qu'il faut créer dans la tête des gens des zones où ils savent que là, il y a de l'essence. Donc il n'y a jamais une station essence toute seule.
Attends, j'ai mon cerveau, il est en train de péter un câble, là, quoi ?
Les stations essence, elles sont souvent... proches l'une de l'autre. Il y en a une dans le sens d'une voie et une dans le sens de l'autre voie, en fait. Et on t'a pas créé une seule station en te disant « point, je domine cette zone de chalandise », etc. Comme les pharmacies. Alors, c'est régulé pour les pharmacies, il y a une densité, mais on a démontré que c'est pas parce que t'avais un concurrent ou un confrère pas très loin que tu travaillais moins.
Les fast-foods sont toujours à côté.
Les fast-foods sont assez proches les uns des autres. Et ils travaillent tous. Et s'ils sont tout seuls, ils travaillent moins que s'ils sont regroupés. Parce que dans la tête des gens, ils se disent « Ah, là, il y a cette solution à ce problème. » T'es au bureau, tu dis « Ah merde, j'ai besoin d'aller chercher du Doliprane. Ah bah tiens, je vais aller à l'endroit où dans ma tête, j'ai stocké que j'avais vu 2-3 pharmacies dans cet endroit. » Après, leur job à eux, c'est de faire en sorte qu'on te préfère toi. Donc que parmi les 2 pharmacies pas loin l'une de l'autre, d'ailleurs on peut prendre cet exemple, le bureau... Ici au bureau, il y a une pharmacie à droite, une pharmacie à gauche.
Et on va toujours, enfin moi je vais toujours à celle de droite.
Le job de la pharmacie, c'est de te faire préférer la sienne.
Ouais.
C'est de te faire préférer son enseigne.
C'est pour ça que pour moi le sujet est plus là. C'est pas tellement choisir un domaine restreint, etc. Même si forcément ça marche, si tu te spécialises, tu peux aller chercher,
l'excellence peux aller chercher
une cible. Mais pour moi, il faut surtout te démarquer, même si tu vas dans un domaine qui est surchargé. Ce qu'il faut surtout identifier, c'est est-ce qu'il y a moyen de faire mieux ? C'est pas parce que le domaine est surchargé qu'il y a quelqu'un d'excellent dans ce domaine. Peut-être qu'il y a autant de gens, mais il y a beaucoup aussi de médiocrité.
Je pense que ce que ce passage essaye de dire, c'est que si tu vas dans un domaine dans lequel il y a déjà beaucoup de gens, pour atteindre l'excellence, la quantité d'efforts à produire est supérieure que si tu vas dans un domaine où il y a moins de gens. Puisque l'excellence est relative. Elle est relative à la quantité de personnes qui exercent ce talent, en fait.
Ouais.
Et donc je pense que c'est ce que l'auteur essaye de dire dans ce passage.
Ah, j'arrive pas à le valider, ce point.
Bah, si vous êtes 2 sur Terre, t'as beaucoup plus de chances de faire partie des gens excellents ou très bons que si vous êtes 1000 à exercer ce truc.
Ah, mais il y aura qu'une personne pour se dire que je suis excellent, tu vois, c'est pas fou.
Ah non, c'est pas vrai.
Si on est que 2 sur Terre, si.
Non, si vous êtes que 2 sur Terre à faire ce truc.
Ah, ok, d'accord. Ouais, mais en même temps, s'il y a beaucoup plus de concurrents, il y a potentiellement bien plus de médiocrité, donc le fait que moi je sois bon est plus mis en avant.
Mais il y a plus de candidats à l'excellence.
Ouais, ça c'est vrai, mais je veux être le meilleur. C'est pour ça que pour moi le sujet est pas trop là, même si je comprends le point. Hein, mais
hier j'ai échangé avec Cédric, le fondateur de Brix, qui est une plateforme d'investissement en immobilier, et il me disait un truc intéressant. Il me disait si tu t'attaques, parce qu'il avait monté plusieurs boîtes avant et tout, il me dit si tu t'attaques à un domaine qui est déjà très chargé, etc., prends tous les points qui sont bons, pas trop mauvais et bons dans ce domaine-là. Tu essaies d'en virer la moitié et tu essaies de te fixer pour objectif de faire l'autre moitié, mais de façon excellente. Et c'est ce qui fait que c'est le seul moyen d'arriver dans un domaine qui est déjà très chargé, très concurrentiel. C'est de te dire, bon, bah, les autres, ils font 10 choses bien. Moi, il y a 5 choses que je vais dégager, que j'accepte de moins bien faire et de même très mal faire. Ou de ne pas faire, pour me dégager un max de temps et de ressources. Par contre, les 5 autres trucs, je vais les faire exploser et je vais écraser le marché là-dessus parce qu'on n'aura jamais vu quelqu'un d'aussi bon dans ces cas de figure-là. Je trouve ça intéressant, je trouve ça bien.
Bah, c'est Uber.
Ah oui, ah oui, oui. Mm.
En fait, pour moi, plus il y a d'exemples, plus il est facile d'identifier ce que tu veux surtout pas être. Et après, c'est comme ça que tu fais le tri, mais j'aime bien quand il y a beaucoup de mauvais exemples.
Autre point, quand dans la vie, on tombe sur une voie sans issue, c'est en général que l'on y a été pour de mauvaises raisons. L'argent, la célébrité, la reconnaissance. Bon, si on sacrifie tout pour obtenir de l'attention, on ressent un vide intérieur que l'on espère combler avec cette ersatz.
Ersatz,
ça se prononce comme ça. Je suis allé voir la définition et tout avant de vraiment. D'amour que constitue l'adulation du public.
Bah, c'est le drame des gens qui font une télé-réalité et qui se rendent compte que 6 mois plus tard, ils n'ont plus aucun fan. Ils tombent en dépression et ils dépensent tout leur argent, mais ils font des showcases dans des boîtes avec des pré-adolescents qui ne sont même pas majeurs.
Ouais, c'est un pléonasme. Mais
c'est vrai.
On en a déjà parlé plein de fois, c'est confondre la célébrité et l'excellence, en fait. Ça n'a strictement rien à voir.
Ben, on en vient au premier point, c'est d'abord faites-le pour vous découvrir et l'excellence commence par ça.
Faites les choses pour vous.
Ouais.
Ne faites pas les choses pour être validé, ni par vos proches, ni par votre famille, ni par vos amis. Faites les choses pour vous, parce que ça vous rend heureux, vous, parce que ça vous épanouit, vous.
Ouais.
Parce que le matin, quand vous réveillez, vous avez envie d'en faire plus que la veille et moins que le lendemain. Que les autres le comprennent, on s'en fout un peu. Du moment qu'il y a un marché, du moment que vous apportez de la valeur, du moment que des gens l'achètent ou le demandent. Enfin, on va pas tout résumer à une transaction, mais du moment qu'il y a de la demande, etc., ben faites-le pour vous. Ne le faites pas pour être populaire. La popularité est un accident.
Vous avez souvenir d'un truc que vous avez fait, mais plus pour les autres ou pour l'acceptation des autres ?
Bah, moi, venir à ce podcast.
Merci, Manuel. Léo, ton stage. Ton stage quand t'étais en...
T'as fait un... Léo, venir à ce podcast, toi.
Je crois que je fais beaucoup les trucs pour moi. Je sais pas. Non, j'ai pas d'exemple en tête. T'en as un, toi ?
La dernière fois qu'il s'est branlé.
Oh, c'est horrible.
Sur
elle est horrible,
sur
celle-là.
Il l'a pas fait pour lui.
Non, mais si, forcément, parce que... Surtout quand tu commences à grandir et que tu passes de enfant à adulte, tu commences à faire les choses pour essayer de rendre fier tes parents.
Ah oui,
c'est
non,
les premiers.
Ça, ah.
Tu vois, et après tu te rends compte qu'en fait, la voie que tu es en train d'entreprendre, en fait, à part faire plaisir à tes parents, ça va pas du tout te convenir à toi et que c'est pas là-dedans que tu veux exceller.
Non, j'ai pas trop d'exemples.
Bon, on passe au prochain point. Pour gérer les inévitables changements qui surviennent dans votre carrière, il vous faut un état d'esprit particulier. Ne vous enchaînez pas à un poste donné, vous n'êtes nullement tenu de faire preuve de loyauté vis-à-vis d'un employeur. Un chemin de carrière n'est pas un ordre religieux. Vous devez tout donner à la réalisation de l'œuvre de votre vie, celle qui vous permettra de vous exprimer en totalité. C'est à vous de l'identifier et d'aller vers elle. Il n'appartient à personne de vous protéger ni de vous aider. Ne dépendez que de vous-même.
Moi, j'adore cette question parce que c'est la question de la dépendance. Et je pense qu'il y a une dépendance saine et une dépendance malsaine. La dépendance malsaine, c'est celle qui va t'inféoder à quelque chose. Donc, tu vas vraiment en être dépendant au point où la suite de ton aventure, pour le résumer comme ça, dépend du bon vouloir de quelqu'un. La dépendance saine, c'est du réalisme. C'est-à-dire que je n'aime pas l'idée de dire « ne dépendez de personne ».
Oui, c'est faux.
Parce que c'est faux. On dépend tous de quelque chose, à commencer par l'oxygène qui nous permet de vivre, etc., etc. Donc, on dépend tous de quelque chose. Donc, il y a des dépendances saines. Ce lien particulier que tu peux avoir avec quelqu'un, qui, il se trouve, quand tu discutes avec lui, te permet d'amener tes idées à un rang supérieur, de challenger, de te donner d'autres idées, d'éclairer la situation sous un autre angle, de te permettre d'être plus créatif ou plus technique ou de réaliser mieux quelque chose, etc. etc. Ça, ce sont des dépendances saines à partir du moment où cet entourage ne s'accapare pas ce que tu es en train de faire. Et a juste pour volonté de contribuer à révéler le talent que tu es, qui, combiné à ces échanges ou ces discussions, devient peut-être un peu plus grand ou apparaît un peu plus vite que si tu étais resté tout seul dans ton coin. Ça, ce sont les dépendances saines. Après, les dépendances malsaines, elles sont faciles à détecter.
Mais c'est souvent les plus dures, desquelles on peut se détacher.
Ouais, ça à partir du moment courage. Où on n'est plus dans une relation romantique au reste du monde et on pense que on n'est pas obligé de supporter les vapeurs des uns et des autres, ça simplifie les choses. Mais j'aime bien cette question. Et c'est une question que j'aime bien poser aux gens. Quelles sont tes dépendances malsaines et quelles sont tes dépendances saines ?
Est-ce que pour qu'une dépendance soit saine, il faut absolument que ce soit un échange ?
Pas forcément.
Ok. Par exemple, un mentor, tu dirais que c'est pas forcément un échange ?
Non.
C'est uniquement de la transmission et c'est...
Tout le monde y trouve son compte. C'est-à-dire que le mentoré reçoit des idées, des conseils, de la guidance, même si c'est pas un mot français. Le mentor reçoit certainement la satisfaction de transmettre, enfin tu vois, une forme d'accomplissement et de satisfaction dans la transmission. Moi je crois pas au fait que il faille que les relations soient parfaitement équilibrées, qu'on compte tout et qu'on vérifie bien que il y a autant de chaque côté. C'est justement parce que tu comptes pas, mais parce que tout le monde a le sentiment que la relation est cool en ne comptant pas, que ça fonctionne.
Tu me dois 10 euros d'ailleurs.
Ah oui, ça m'étonne.
Ouais, si.
Mais c'est très difficile à faire pour beaucoup de personnes, le fait de pas soit se sentir redevable, soit se dire « Ah mais quand même, la dernière fois, moi j'ai fait ça, lui il a pas fait ça, etc. » Pour moi, c'est le pire poison d'une relation d'amitié, c'est quand ça part de là et que tu commences à entendre « les ah ben moi j'ai fait ça, moi machin. » Enfin, compter les points, en fait, c'est un enfer parce que la vie, elle va être faite de plein d'imprévus. Et peut-être que maintenant c'est toi, peut'être que demain c'est quelqu'un d'autre. Et
enfin... Regarde surtout les moments dans lesquels. Est-ce que les gens savent détecter les moments importants ? Moi, je pense qu'un bon critère, c'est de savoir détecter chez les gens qui sont censés compter pour toi, est-ce qu'ils sont là dans les moments importants pour toi ? Est-ce qu'ils savent détecter que là, c'est un moment important pour toi, et là, c'est pas très grave.
On peut dire non, quoi. Ouais,
voilà. Ça, c'est un bon critère. Après, la quantité, et est-ce qu'il y a un équilibre des comptes parfait ? Ça, c'est pas très grave. Parce que c'est plus l'intensité de la relation qui vaut quelque chose.
Et puis parfois, il y aura des choses qui seront peut-être d'un aspect financier, d'autres fois d'un aspect vraiment purement d'amour et d'amitié. Enfin, t'as des trucs qui... C'est juste impossible à quantifier, quoi. Ouais, c'est ça. Déjà, juste du temps, du partage, des moments. Enfin, je pense que... Mais c'est difficile, et pour ça, et je pense qu'il faut le dire aux gens, tu peux pas le faire avec 20 personnes. Les gens qui me disent « Ah ben, ce jour-là, je vois 6, demain, je vois machin. » Ben, en fait, non, tu peux avoir aucune relation exceptionnelle parce que t'as trop, tu alloues ton temps trop facilement à trop de gens. Donc,
Parce que aimer les gens, c'est aimer leurs qualités et leurs défauts. C'est pas vouloir les changer, c'est vouloir encourager ce qu'ils ont de mieux. Vouloir les changer, ça, déjà, ça part du principe que toi, tu sais et que l'autre ne sait pas. Ou qu'il faut s'aligner sur ton référentiel à toi.
Ouais.
C'est pas terrible comme relation. Et puis, aimer les gens, c'est passer énormément de temps à les écouter ou à les interroger. Pas à leur affirmer des choses, mais à les aider à réfléchir ou à se poser les bonnes questions. Ou à se les poser avec eux, en n'ayant soi-même pas les réponses. Donc ça demande du temps.
Aucun bien ne peut résulter du fait que l'on s'écarte du chemin auquel on est destiné. On est perclus de toutes sortes de souffrances cachées. Le plus souvent, on s'écarte de sa route par goût de l'argent, en vue d'une prospérité immédiate, mais comme cela ne correspond pas à quelque chose de profond en soi, l'intérêt s'étiole et, au bout du compte, l'argent n'arrive pas aussi facilement que prévu. On se lance alors vers d'autres sources de gains faciles en s'éloignant de plus en plus de sa route, et même si l'on arrive à subvenir à ses propres besoins matériels, on se sent vide et on cherche à se rattraper avec des croyances, des drogues, des divertissements. Impossible d'échapper à ce cercle vicieux. Donc faire face à soi-même, être aligné avec exactement ce qu'on ressent et pas ce qu'on essaie de se persuader d'être ou de vouloir.
Il suffit de regarder autour de soi, la quantité de gens qui se fuient est quand même assez astronomique. Mais pourquoi ? Parce que c'est difficile de se regarder, de se faire face. C'est difficile de regarder en face ses propres lâchetés, ses propres capitulations, ses propres défaites. C'est dur, mais c'est ça le courage. Le courage, c'est pas détourner le regard. Le courage, c'est pas t'abrutir avec trois verres d'alcool parce que t'as pas le courage d'aller aborder telle ou telle personne, etc.
On le fait un peu. Hein.
C'est pas ça. Ça, ce sont des lâchetés. La plus grande des difficultés, c'est de se regarder avec le plus de lucidité possible.
J'arrive pas à me mettre.
C'est une histoire d'anatomie, ça, Léo.
Dans ce point, parce que pour le coup, ça me touche pas du tout. J'ai du mal à comprendre comment tu peux laisser une part de qui tu es pour une somme d'argent. Parce que une fois que tu la reçois.
T'inquiète, je t'expliquerai.
Une fois que tu la reçois, c'est très bien. Moi aussi, j'adore l'argent. J'ai rien contre l'argent.
Non, je rigole, mais c'est vrai.
Mais une
vrai.
Fois que tu l'as dépensé,
c'est exactement
qu'est-ce,
ça.
Qu'est-ce qui te reste?
Mais ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre la différence entre le flux et le stock. Ça m'a pris beaucoup trop de temps. Et c'est pas faux d'en avoir parlé, mais des dizaines de fois, je pense, avec Manuel, ou à plein de moments, je comprenais pas. Mmh. Et je pense qu'effectivement, c'est très important. Moi, j'avais eu un bon exemple. C'est une personne qui était atteinte d'une maladie grave. Sa famille avait beaucoup d'argent et en dépensait très très peu. Il conservait tout le fric très radin, etc., etc. Et une personne un jour extérieure a discuté avec une des personnes de cette famille-là et a dit « Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'as juste t'arrives pas juste à profiter un peu plus différemment ou d'aider les autres différemment, etc. » Il dit « Non, parce qu'on sait jamais, etc. » Et à ce moment-là, cette personne lui répond « Mais quand cette personne a été gravement malade, t'as dépensé combien? Tu lui as sauvé la vie avec des millions d'euros? Bon non, on avait des assurances, tout était pris en charge. » Donc ok, donc même quand t'es presque en train de toucher la mort, t'es en train de me dire que l'argent t'a pas sauvé, non? Qu'est-ce qui t'a sauvé? L'amour, les proches... Et ça m'avait marqué cette conversation parce que tu te dis en fait, même en étant milliardaire, c'est pas ce qui te garantira de sauver une personne atteinte d'un cancer grave, etc. Ça fera pas revenir les gens, quoi. Ouais. Donc intéresse-toi plutôt à l'humain d'abord, investis là-dessus, parce que ça te permet au moins d'éviter un maximum de regrets.
Je suis d'accord, tu nous invites au resto ce soir?
Non, je vais...
Tu vois, t'as pas tant changé que ça.
Voilà les gars, je sais pas si on deviendra peut-être un peu plus excellent après ce podcast, vous peut-être.
Ouais, non, mais en vrai, ça a l'air intéressant. Je pense que je prendrai le temps de lire le livre. Parce que, oui, c'est ça que je voulais aborder tout à l'heure, c'est que l'excellence, c'est pas un point final, en fait, c'est pas un point d'arrivée. Tu peux toujours être plus excellent que la veille.
Je vois pas de quoi tu parles.
La bise. We'll be right back.